Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
En compagnie de Jérôme Munoz, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes bien sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec Jérôme, qu'on commence à bien connaître, et j'espère nos auditeurs aussi sur RDWA.
Oui, j'espère aussi.
Bah oui. Et souvent, il est question d'agriculture avec toi, il est question de la Confédération Paysanne, dans laquelle tu es un membre actif, hein, puis, en tout cas localement, tu nous entretiens de ce qui s'y passe.
J'alimente régulièrement lorsqu'il y a de l'information à donner, oui. Et c'est vrai que je viens parler souvent d'agriculture, puisque je suis moi-même agriculteur.
Maraîcher, on peut le rappeler.
Maraîcher sur dit, voilà, et puis comme tu le dis, effectivement, je suis impliqué dans le syndicalisme qui est la Confédération Paysanne.
Alors, est-ce que juste avant qu'on parle de cette info très précise, en quelques mots, tu rappelles à tout le monde ce qu'est la Confédération Paysanne? Tu l'as dit, un syndicat agricole, donc.
Un syndicat agricole, voilà, qui défend les agriculteurs et les travailleurs de la terre, c'est-à-dire aussi le monde salarié. Et voilà, et on est sur des lignes qui sont différentes du syndicat dit majoritaire et où on espère fortement aboutir vers une agriculture qui soit toujours plus respectueuse et de la terre et des hommes. Voilà, puisqu'on ne fait que passer là, il faut qu'on fasse attention. L'agriculture est quand même la base, le socle de la vie en général. Voilà, et on est très attaché à ces valeurs tant environnementales qu'humaines. Et voilà, donc on est un syndicat représentatif, c'est-à-dire qu'on a une légitimité vis-à-vis des institutions et donc ça nous permet donc de siéger dans des organismes et institutions représentatives de l'État et de faire passer nos messages. Voilà.
Quel est-il le plus gros syndicat? Parce que tu disais que vous n'étiez pas celui-là.
Donc au niveau départemental, c'est ce qu'on appelle la FDSEA, la Fédération départementale des...
C'est la FNSEA.
Niveau national, ouais, j'ai un peu du mal. oui, c'est,
j'ai besoin de me rappeler le nom.
Voilà, oui, c'est ça. Okay. Au niveau national, c'est la FNSEA. Ouais.
Et après, en gros, vos différences, pour vraiment...
Sur les grandes lignes, en fait, on est dans le discours, on va dire, hein, pour faire court, on est souvent d'accord, on tombe souvent d'accord, mais par contre, dans les mises en œuvre de terrain, on est en contradiction, c'est-à-dire que la FNSEA est plus sur des positions du type d'une agriculture entrepreneuriale, c'est-à-dire qui tend vers un raisonnement qui s'inscrit dans une vision économique capitaliste et qui tend à faire à s'agrandir les structures,
voilà, alors avec des gros rendements,
avec des gros rendements, de la rentabilité, de la compétitivité, ça c'est un mot que l'on aime beaucoup utiliser aujourd'hui. Et alors que nous, au sein de la Confédération Paysanne, on milite pour une agriculture qui soit tournée vers le côté vivrier et la souveraineté alimentaire. Donc des paysans nombreux pour une économie locale, relocalisée, qui travaille et qui respecte, comme je le disais tout à l'heure, l'environnement et l'humain. Quoi.
Et ça depuis toujours, ou est-ce qu'il y a un moment donné, il y a eu cette séparation? Enfin, je ne sais pas à quel moment naît la conf. Est-ce que d'entrée de jeu, c'était ça l'idée, de redevenir sur des trucs plus localisés, plus petits?
D'entrée de jeu, oui, je pense. Oui. Alors après, la conf, elle est née en 1987, mais avant ça, il y avait eu des mouvements dissidents à la FNSEA. Donc il y a toute une historique avant. Hein, il y a eu les paysans travailleurs, la Confédération nationale aussi des... je ne sais plus exactement, mais bon, j'ai un peu, au niveau historique, un peu des lacunes. Mais ce mouvement-là est quand même né d'une dissidence au sein qui a émergé au sein de la FNSEA durant les années
80.
Même avant, 50-60, ça a commencé, et dans les années 60-70, ça s'est fortement exprimé. Voilà, et c'est ces petits mouvements qui se sont retrouvés qui, en 87, a fait que la Confédération Paysanne est née.
Voilà. Voilà, c'était pour comprendre un petit peu si ça avait bien été l'objectif de départ, hein, et pas quelque chose qui se fait avec le temps parce que c'est aussi un peu à la mode.
Oui. Non, non, c'est vraiment un objectif. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu rupture dans les choix politiques pour un projet agricole, quoi, au niveau national et même d'une ampleur plus large, puisque 1990 et notamment 92, il y a eu des traités au niveau européen qui ont impactent fortement sur l'agriculture. Voilà, donc il y avait quand même une vision européenne qui a commencé à émerger, et donc des désaccords très forts qui pouvaient ne plus être compatibles, qui n'étaient plus compatibles avec le suivi d'un mouvement unitaire, quoi. Voilà. Et donc il y a eu scission à un moment donné, et donc formation de différentes structures. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle la Confédération paysanne, parce que c'est le regroupement de plusieurs petites structures de scissionnaires de la FNSEA qui se sont réunis pour être plus forts, quoi, et parce que les messages se rejoignaient et les objectifs étaient communs, quoi. Voilà.
Alors, puisque tu as cité l'Europe, j'ai envie de faire un tout petit peu de politique avant qu'on parle de ton sujet. Que pense la conf de la PAC ? Alors, la Confédération paysanne de la politique agricole commune, c'est quelque chose qui doit être...
Oui, alors...
Et question annexe, est-ce que vous arrivez à vous assembler avec d'autres types de syndicats dans d'autres pays, ou est-ce que c'est un combat franco-français face à l'Europe ?
Alors, je vais répondre par la deuxième. Voilà. C'est pas un combat franco-français, comme tu le dis. C'est il y a vraiment des positions communes avec les autres pays, avec donc d'autres syndicats européens, et notamment sans doute plus avec les nouveaux pays, en fait, les pays émergents européens qui viennent d'entrer dans l'Union européenne, qui prennent conscience, eux, de, pour une bonne part, de l'enjeu qu'il y a derrière une politique agricole commune, notamment, donc je pense dans tous ces pays de l'Est, hein, où ils ont une agriculture qui aujourd'hui est encore fortement imprégnée dans le paysage, avec des petites structures qui malheureusement risquent de ne pas cadrer avec la tendance vers laquelle on veut amener l'agriculture européenne. Ensuite, ce que pense la conf de la PAC, je ne suis pas un spécialiste malheureusement de la PAC, puisque moi, sur mes positions...
N'en bénéficie pas.
Voilà, mais même personnellement, je pourrais en bénéficier, mais je ne suis pas en accord, ouais, avec cela. Moi, je suis plutôt sur des positions de dire que, et revendiquer le fait que je sois justement rémunéré à la base de mon travail, et que plutôt que d'aller chercher une aide pour compenser un travail qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur au départ, quoi. C'est un peu ça, hein. Moi, je reste en retrait, je ne demande rien, je me débrouille par mes propres moyens, et c'est un choix donc personnel. Ensuite, au niveau de la Confédération paysanne, on milite pour que justement, à partir de 2014, où la nouvelle PAC, en fait, la politique agricole commune, va être effective. Donc il y a encore tout le champ de cette fin d'année et un peu 2013 sur lequel on va pouvoir essayer de tirer des ficelles pour rendre la PAC plus juste. Et c'est surtout là-dessus que l'on veut aller, c'est-à-dire faire reconnaître. Alors il y a eu des avancées, c'est-à-dire avec des plafonnements d'aide, des répartitions qui se veulent plus équitables, mais qui restent malgré tout pas forcément très justes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, quand même un différentiel, des disparités en fonction des structures et aussi des régions, en fonction de la rentabilité à l'hectare que l'on peut avoir. Et c'est vrai que la France est un gros producteur de blé. Les grandes plaines céréalières tirent d'autant mieux leur épingle du jeu.
Mais c'est toujours en fonction de la taille aussi. C'est gros, mieux c'est. Enfin,
D'accord. Alors, on a rentré au niveau des commissions européennes et donc de la réflexion européenne des pays membres, on a introduit la notion de plafonnement. De plafonnement dans un souci de meilleure répartition. Mais il y a quand même des lobbies qui, et notamment le lobby céréalier, qui tire une épingle bien dorée de ce jeu-là, qui freinent des cas de fer et qui font tout pour que, justement, eux, la couverture soit la plus large possible sur leurs épaules par rapport aux autres. Donc voilà. Mais malgré tout, il y a quand même des avancées qui ne sont pas suffisantes à notre... à notre idée, mais qui sont existantes. Et après, par rapport à notre ligne directrice dans nos revendications, il y a la prise en compte de la notion de petite ferme. Mais là aussi, il y a un mais, malheureusement, c'est que la notion de petite ferme a été introduite dans le discours, dans l'écrit. Malheureusement, ça se traduit par des actions vraiment marginales en termes d'aide au maintien, par exemple. Voilà.
On voit quand même souvent que les petites fermes, et comme le choix que toi tu fais, c'est de vous débrouiller tout seul, et finalement, ça arrange tout le monde, ça, un peu.
Sans doute.
Si toutes les petites fermes demandaient des subventions, la PAC exploserait.
C'est vrai que peut-être ça pourrait faire bouger les lignes, oui, sans doute. Mais en même temps,
c'est très long pour vous, pour si peu de retour, quoi.
En fait, voilà, c'est ça. Moi, le problème, personnellement, le vivant de l'intérieur, c'est qu'au niveau administratif, au niveau travail administratif que moi, ça me demanderait pour toucher 3 noix et 2 amandes, c'est en fait le bénéfice que j'en retirerais paierait à peine ou voire pas suffisamment tout le travail en amont pour y prétendre. Voilà. Donc voilà. Alors c'est vrai que peut-être si toutes les petites fermes demandaient quelque chose, ce petit quelque chose, ça pourrait faire bouger, mais pas tout de suite. Malheureusement, ce sera pas tout de suite parce que là aujourd'hui, l'aide à la petite ferme, elle est assez ridicule, quoi. C'est même pas, si on ramène ça à l'année, c'est 100 euros par mois. Donc on va pas bien loin avec ça. C'est un peu. Donc peut-être que ça pourrait faire bouger, mais voilà, malgré tout, j'y crois guère. Moi, je crois plutôt à un sursaut général au niveau de la société, avec des actions. Bon, là, on va parler d'une action, ça peut être aussi une amorce d'une réflexion plus globale. Moi, je pense que c'est la société dans son ensemble qui doit faire bouger les lignes et pas que les agriculteurs pour les agriculteurs, mais c'est l'ensemble de la société. Parce que nous, quand on se bouge, c'est que derrière, on a une vision qui est plus générale et pas uniquement centrée sur notre corporation. On est complètement conscient que l'agriculture est le socle de la vie, en fin de compte. Hein. C'est la nourriture que l'on fait aujourd'hui fait les gens de demain, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est là-dessus que, personnellement, c'est là-dessus que j'axe mon discours pour essayer de rassembler un maximum de personnes autour de la cause agricole, quoi.
Et donc principalement des consommateurs, ceux qui ne touchent pas à la cause agricole, justement, qui simplement la consomment,
qui sont concernés, qui sont concernés, mais indirectement, puisque n'étant pas dedans, mais en même temps, c'est quand même bien tout un chacun, et moi je suis ce consommateur-là dont tu parles aussi, hein. C'est pas parce que je suis agriculteur que je n'en suis pas un, on est tous concernés là-dessus, et...
Alors, tu perds pas ton temps avec les paperasses de la PAC et tout ça. Par contre, tu aimes bien passer ce temps-là pour militer un peu pour la conf, pour aller aussi te déplacer, faire tout un tas d'actions. Tu nous en amènes une aujourd'hui. Quelle est la telle ?
Oui, alors en fait, ça fait suite à un procès que j'étais venu annoncer à Radio Diwa en janvier dernier.
Exact.
Voilà. Et donc en fait, c'est suite à une action en mai 2011. Christian Bellon, un paysan aviculteur, donc éleveur de volailles, qui subissait des contrôles répétés de la part des services vétérinaires, a été à un moment donné un peu excédé et a fait appel au syndicat pour être accompagné lors de ce contrôle-là. Donc il y a une 30aine de paysans qui s'étaient mobilisés. La personne des services vétérinaires, donc c'est la DDPP, la Direction départementale pour la protection des populations, anciennement DSV, Direction sanitaire et vétérinaire, hein, ça a été renommé, est venue, a procédé à son contrôle, mais bon, a quand même été perturbé par le nombre et a pris peur, en fait, et n'a pas réalisé le contrôle dans son intégralité. Suite à ça, il y a eu une mobilisation dans les locaux des services vétérinaires. Et derrière, il y a eu un procès donc, qui a eu lieu le 26 janvier.
Est-ce que tu peux rappeler un petit peu le... Donc, la personne, est-ce qu'il est normal de procéder à des contrôles hyper réguliers dans des poulaillers? Est-ce que réellement l'agriculteur était un peu harcelé?
Ou est-ce que quand c'est même, normal oui, que ça se fasse quand même.
Non, c'est... Est-ce que ça se fait partout comme ça,
Les contrôles se font et c'est tout à fait normal, on ne les remet pas en cause.
Oui.
Ça, c'est certain. Par contre, lorsqu'il y a quelque part, entre guillemets, un acharnement sur une personne, c'est-à-dire venir régulièrement et exiger de mettre en place des nouvelles normes, des nouvelles installations qui sont à la fois coûteuses et contraignantes pour l'agriculteur, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut poser un problème et être perçu par l'intéressé comme du harcèlement. Mais pas forcément du harcèlement de la part d'une personne ou d'un service administratif, mais du harcèlement de choix qui sont faits plus haut au niveau étatique et européen, au niveau des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes. Christian Bellon, par exemple, est un agriculteur qui va bientôt en retraite.
Oui.
Donc mettre aux normes, investir beaucoup, voilà. Donc l'action avait été faite dans le sens d'alerter en fait les pouvoirs publics et d'amorcer, puisque parfois pour amorcer un dialogue, il faut passer par l'action. Et j'y viendrai tout à l'heure, mais c'est un peu le cas. Hein, on le voit, c'est que le dialogue est en train, je l'espère et je le souhaite fortement, en train de se renouer justement avec certains services administratifs.
Et donc le procès, c'est le service administratif qui l'a fait à cet agriculteur.
Alors du coup, derrière, je voulais apporter, mais j'ai un peu oublié, en fait c'est sur ordre du préfet. Sur les conseils de la préfecture que la personne a porté plainte. Et
la personne qui avait réalisé le contrôle.
Voilà, la personne qui a réalisé le contrôle a porté plainte, donc Christian Bellon. Et il y a aussi un autre collègue, Martin Dedoué, qui, le lendemain de l'action, a accompagné Christian à la gendarmerie pour l'accompagner dans sa déposition. Et voilà. Donc, Martin a aussi été poursuivi.
Pour complicité.
Il a été identifié comme étant le meneur du syndicat. Ah. En fait, il y a eu un peu un quiproquo dans les couloirs de la préfecture. C'est que la mise à jour de leur base de données quant aux responsables, au nom des responsables de notre syndicat n'avait pas été mise à jour. Et Martin a été identifié à ce moment-là comme porte-parole alors qu'il ne l'était plus. Ouais. Donc il a été poursuivi comme étant le responsable du syndicat. Donc, en première instance, Christian a été condamné à 3000 euros d'amende avec sursis, plus des dommages et intérêts à verser à la personne des services vétérinaires et des frais de justice à payer. Donc, le total s'est élevé à 1000 euros. Donc, ça a été payé. Il n'a pas souhaité faire appel. Il a accepté cette condamnation, voilà, parce que c'est du temps, de l'énergie, de l'argent. Il n'a pas voulu aller plus loin. Et Martin avait été relaxé sur ordre du procureur. Et à notre grande surprise, le substitut du procureur a fait appel de cette demande. Voilà. Donc on pense que, et d'ailleurs c'est pour ça que, suite à ce que je vais vous expliquer, on demande une rencontre avec monsieur le préfet prochainement. On pense que c'est le préfet qui a demandé au parquet de poursuivre sur la relaxe qui avait été demandée par ce même parquet. Hein. Demandé et obtenu. Voilà. Donc le procès en appel a eu lieu le 11 septembre à Grenoble et le 9 octobre, le verdict est tombé. Martin est condamné à 3000 euros d'amende avec sursis. Donc un sursis, ça veut dire 5 ans sans infraction, sinon l'amende, elle tombe comme une épée de Damoclès constamment suspendue. Voilà. Donc derrière, en analysant la chose, on fait ressortir un problème qui n'est plus de l'ordre agricole ou réglementaire ou contestataire ou autre, mais qui devient politique. C'est-à-dire que le préfet est derrière, donc l'État, représentant de l'État, c'est le gendarme du département, hein, et donc il est là pour... de par cet appel qui a été formulé et acté, ça dénote un caractère politique, c'est-à-dire que c'est la Confédération paysanne, c'est le syndicat, le syndicat contestataire, on va dire, c'est-à-dire que dès lors qu'on conteste l'ordre public ou la réglementation, ou lorsque l'on n'est pas d'accord et qu'on le fait savoir d'une manière rappelons-le, non violente, hein, parce qu'il n'y a pas eu de violence. Hein, ça a été vraiment, voilà, c'était juste là pour être vu et entendu et faire susciter des réactions. Eh bien, la réaction, elle en est de l'ordre de la condamnation des minorités quelque part, parce qu'on est considéré comme un syndicat minoritaire, et des contestataires.
Donc, c'est quand même assez régulier de condamner des membres de syndicats, y compris dans la force de travail, etc. Enfin, ça,
oui. Non, mais bien sûr, hein, dès qu'on n'est pas dans le mouvement, dans la ligne qui est amenée ou qui semble être toute tracée, ben forcément, on casse. Donc voilà. Donc nous, par rapport à ça, on s'est dit, mais on va se mobiliser et on va appeler à mobiliser. Donc c'est ce qu'on fait justement, ce qu'on va faire. Donc demain, on appelle à se mobiliser à partir de 13h à Valence, avenue de Romans, devant les locaux de la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des populations.
Alors on précise demain 23 ou tout à l'heure dans quelques heures, puisque l'interview passe aujourd'hui et demain matin.
Hein. Oui, voilà,
donc,
c'est
mardi
ça.
23.
Oui, mardi 23, oui, c'est vrai, octobre. Tu fais bien de le préciser. Ouais. donc voilà, mardi 23 octobre, donc à partir de 13h devant les locaux de la DDPP, où là, à 13h, eh bien, on partage, on fait un pique-nique partagé. Et à 14h, on fait une action symbolique, un contrôle sanitaire symbolique des locaux de la DDPP. C'est-à-dire que nous n'entrons pas dans les locaux, mais nous allons mettre un petit laboratoire devant la porte. On va faire un petit déprélèvement que l'on va analyser sur place, et je suis sûr que l'on va trouver sans doute des mauvaises bactéries, et on va pouvoir faire émerger une certaine insalubrité des bâtiments.
C'est sûr.
Et si cela s'avère être le cas, eh bien nous déclarerons donc les locaux impropres à l'utilisation, et donc il faudra donc évacuer et le fermer. Enfin, on agira en conséquence. Voilà.
Donc vous iriez par exemple jusqu'à une autre direction sanitaire pour dire voilà, ce local est rempli d'échets.
Ah ben on fera les tests sur place, hein, on va faire les tests sur place, on aura les laborantins et le matériel qu'il faut pour cela.
Mais
et
ça pourrait se faire fermer, ça, vraiment?
Je pense pas. Nous, ce que l'on veut derrière le symbole de,
oui, non, mais
de
l'action de symbolique, mais voilà. Quand même.
Je sais pas, si, peut-être, hein, si on commande des experts pour montrer qu'il y a c'est bourré d'amiante et insalubre, on le fait fermer. Hein. On peut toujours trouver quelque chose, je suis sûr. Puisqu'on arrive toujours à nous trouver quelque chose.
Oui.
Quand on veut embêter les gens, on trouve toujours. Donc,
non, c'est vrai qu'en plus, on a des belles normes pour le faire. Ouais. Très bien.
Ouais, ouais. On pourrait le faire. Ouais.
Ah, c'est excellent,
voilà.
Comme action.
Et donc, à la suite de ça, en cortège, donc on a fait une demande de manifestation auprès de la préfecture. En cortège, on va aller devant la préfecture et demander audience au préfet, d'une pour rendre compte de nos prélèvements et de nos analyses, et qu'il agisse en conséquence, et aussi pour avoir une discussion sur le fond de cette affaire qui aujourd'hui est clairement affichée comme étant politique. Voilà.
Alors, excuse-moi, tu as dit, c'est Valence ou Grenoble du coup là?
C'est Valence.
Valence.
C'est Valence, oui.
Parce que c'est le préfet de Valence.
Oui, c'est ça, oui, c'est le préfet. Nous, l'action a eu lieu dans la Drôme.
Dans la Drôme.
Voilà, donc nous, c'est vraiment la Drôme. Hein.
Parce que tout à l'heure, il y avait Grenoble dans les...
Oui, mais Grenoble, c'est parce que c'est la cour d'appel. C'est-à-dire que lorsqu'on est en première instance sur le département, la cour d'appel, elle est à Grenoble.
Okay.
Voilà. Donc du coup, moi, j'appelle à ce que les gens se mobilisent, et non pas que les agriculteurs. Alors c'est vrai que j'ai fait passer déjà l'info autour de moi dans mon réseau privé. Mais bon, la radio est aussi un bon moyen pour diffuser plus largement et sensibiliser plus largement aussi les publics. Voilà, donc si les gens veulent venir, moi je vais y aller. Donc,
voilà, le rendez-vous donc est à 14h à Valence.
Donc 13h pour faire le pique-nique.
13h pour faire le pique-nique, voilà. mais...
À 14h, l'action débute.
Y aurait-il un départ, quelque chose qui pourrait se faire de dit
De dit,
bus,
moi...
du covoiturage, il n'y a rien de prévu de précis.
Non, il n'y a pas de bus, parce que bon, après ça demande des moyens, et c'est malheureusement ce dont on ne dispose pas à pléthore.
N'étant pas le syndicat majoritaire.
Eh ben non, voilà, ouais. On n'a pas la plus grande bourse. C'est pas nous qui sommes les tributaires. Moi, ce que je peux proposer, c'est de laisser mon contact pour les personnes qui veulent venir, de façon à ce qu'on organise un covoiturage. Voilà, moi je peux laisser ça. Donc le mieux, c'est de m'appeler sur mon téléphone portable, qui est le 06 84 06 58 17. Voilà, ou aussi, si vous n'arrivez pas à me joindre, d'appeler directement la Confédération Paysanne de la Drôme au 04 75 25 21 72. Là, on a une personne qui est notre salarié qui est disponible et qui pourra rebasculer les informations vers les personnes ressources locales. Voilà, et moi je pense que c'est important qu'il y ait un maximum de personnes. Parce que derrière, ce que je n'ai pas dit encore, qu'il est important de dire, c'est que derrière, on veut faire émerger aussi et essayer de faire prendre conscience aux personnes qui décident des réglementations et qui régissent l'agriculture et notamment l'élevage. On fait évoluer les règlements et les réglementations de plus en plus vers le haut de la contrainte. Et donc, les conséquences, elles sont graves sur les paysans que nous on défend et qui souvent sont des structures modestes et de plus en plus fragilisées par ces normes, ces réglementations, parce que ça demande des moyens pour mettre aux normes certains bâtiments. Et ça va complètement en contradiction avec les discours que l'on entend aujourd'hui de la part des politiques qui nous mettent en avant une agriculture plus verte, un respect en général des moyens de production.
Voire même du bio.
Voire même du bio, bien sûr, mais ça c'est un problème aussi. On pourrait en parler, faire un jour quelque chose là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Mais on va vers une tendance industrialisante de l'agriculture et qui vient en contradiction avec le discours. C'est-à-dire que l'on dit, d'un côté, on nous affiche des bonnes intentions d'aller vers la réduction des pesticides, par exemple en agriculture, en mettant lors du dernier Grenelle, par exemple, on prend des décisions pour aller vers une réduction de 50% des pesticides. Or, dans, par exemple, le journal Politiste cette semaine, il y a un petit article qui fait état qu'en 2011, on a consommé plus de 2,7% de pesticides par rapport à 2010. Donc en fait, on nous affiche des choses pour aller vers une agriculture plus propre, mais en fait, on continue dans les actes à aller vers l'inverse. Et là, aujourd'hui, les réglementations, elles sont pareilles pour tous. Elles ne sont pas modulables, elles ne sont pas interprétables, voire possible d'obtenir des dérogations pour moduler en fonction de la taille des structures, les moyens à mettre en œuvre. Parce que le résultat, on peut obtenir des résultats similaires. Par exemple, sur des élevages de petite taille, on peut obtenir des résultats similaires, c'est-à-dire des produits de qualité qui soient sains et non et inoffensifs pour la santé, au contraire bénéfiques pour la santé des consommateurs, mais sans mettre des moyens énormes, quoi.
C'est-à-dire la batterie de normes qui, elle, est beaucoup plus adaptée à des élevages énormissimes de 5000,
voilà. C'est des choses qui deviennent mais de l'ordre de l'absurde, dirais. Oui. Parce qu'on va dans... aujourd'hui, on a l'impression d'être un laborantin lorsque l'on rentre un élevage avicole.
Donc j'invite les auditeurs qui ne le savent pas, vous pouvez aller chercher une interview sur RDIWA d'un poulailler tout neuf, celui de Rémi Segond à Barnave.
Oui.
Donc c'est absolument impressionnant, mais c'était fait d'entrée comme ça.
Oui, parce que c'est les normes. Aujourd'hui, quand on s'installe, il faut avoir un bâtiment.
Il a un habit, effectivement, une charlotte, enfin la totale.
Une charlotte, des chaussures, un pédiluve. Il faut un vestiaire, il faut ci, il faut ça. Alors ça, moi, je conteste pas les moyens à mettre en œuvre, mais il faudrait pouvoir... Et c'est là où on se borne actuellement avec la réglementation, c'est que les règlements, tout va trop vite, ça nous échappe. Et puis après, par faute de moyens ou de temps aussi, on n'est pas suffisamment fort pour être là au bon moment, pour essayer d'orienter ou de faire infléchir les décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, on est sur... on va vers une direction qui semblerait soit où il est impossible d'aller sur le champ dérogataire pour moduler un peu voilà parce que
on ne fait pas de cas par cas dans la loi.
Voilà, et on fait pas de cas par cas. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que on peut très bien avec un peu du bon sens arriver à un résultat identique en utilisant des moyens différents. Voilà, c'est ce qu'on demande, c'est d'assouplir un petit peu le côté moyen à mettre en œuvre pour arriver à un même résultat. Le cas, par exemple, il y a eu il y a quelques années de ça, une tentative de faire en sorte que les fromages fermiers sur les marchés ne puissent plus être vendus tels
Ah,
qu'on
on s'en
les connaît
rappelle.
encore aujourd'hui.
Oui, ça.
Eh bien là, on avait réagi fortement à ça, et on a pu mettre en place un champ dérogataire pour ça, qui fait qu'aujourd'hui les fromageries sont étudiées au cas par cas, et sur les marchés, on n'est pas obligé d'avoir toute la batterie sanitaire du froid, du machin, du véhicule réfrigéré ou autre, qui demande des moyens financiers énormes. C'est là où je peux faire aussi le parallèle par rapport à la différence entre la Confédération paysanne et le syndicat majoritaire, et d'autres syndicats aussi, hein, comme par exemple la Coordination rurale, qui eux ont une vision contestataire par rapport à la politique générale, mais ultra-libérale d'un autre côté, quoi. Donc c'est assez mortifère comme, à mon sens, comme truc, quoi. C'est que voilà, on dénonce une agriculture économiste, quoi, tout simplement, qui fait que il faut générer du chiffre, du profit, de l'économie, mais pas du tout à l'échelle du local. C'est du global, quoi. C'est du global et
Bah,
voilà, et c'est un peu.
ça c'est le fond, mais toujours ce qui est mis en avant, c'est un peu plus d'hygiène, un peu plus de bien-être pour le consommateur, en fait.
Oui, et pour l'animal aussi. Alors ça peut faire rigoler aussi le
Bon.
bien-être pour l'animal, mais bon. Effectivement, c'est mis en avant.
Je crois qu'il n'est jamais question d'économie et d'embêter les agriculteurs. C'est pour mon bien-être à moi d'avoir des
Exactement.
bons œufs.
Oui, voilà. Ou des bons poulets.
Ou des bons poulets.
Voilà. Sachez que les poulets pas chers, ils poussent en 45 jours.
Oui.
Hein, celui qui connaît un peu ou qui a grandi un peu dans une ferme, il sait très bien que Pépé Mémé mettait 6 mois pour avoir un poulet, quoi.
Ouais.
Il est bon. Bon, bref. Voilà. Donc c'est ce message fort qu'on souhaite faire passer à travers cette action et d'arriver à mobiliser un maximum de personnes. Voilà. Donc
Donc le 23 demain.
Mardi
Mardi
23,
23.
voilà, à partir de 13h à la DTPP à Valence. Donc soit on se rapproche de la Confédération paysanne pour avoir des infos en appelant le 04 75 25 21 72. Et pour les Diwa qui voudraient s'y rendre et s'organiser pour du covoiturage, eh ben, m'appelle au 06 84 06 58 17. Voilà. Et soyons nombreux, parce que moi j'ai pas mal fait du tapage dans les médias pour avoir justement
Un peu de monde.
Une résonance forte. Voilà. Faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse émerger ces questions-là et cette notion de double langage qui est réel, hein. Aujourd'hui, il est réel en agriculture, on a véritablement un souci.
Et puis rappelons une dernière fois aussi aux auditeurs que Jérôme Munoz, tu participes bien à l'émission Feu de tout bois, où vous parlez
Oui.
un petit peu de tout ce qui est dérangeant. Et donc ces questions-là sur l'agriculture sont des choses qui dérangent le courant politique classique, on va dire. Et que tu as mis en place une adresse mail sur laquelle est-ce qu'on t'écrit d'ailleurs à ce propos?
Bah, pour l'instant, non.
Non. Ah bah
Mais
alors
bon,
redis-la une dernière
mais
fois quand
c'est pas
même,
grave. Oui.
si vous
Donc
voulez.
donc c'est vrai qu'à Feu de tout bois, je me suis un peu engagé là. Maintenant, je commence à avoir du temps, vu qu'on entre dans la
Dans l'hiver.
période hivernale, voilà, à traiter un sujet, alors de façon générale ou plus pointue parfois, en lien avec l'agriculture, éventuellement l'environnement, puisque l'environnement impacte aussi sur l'agriculture et inversement. justement. Voilà, et donc je vous invite, si vous voulez qu'on traite un sujet, de m'en faire part en m'écrivant à l'adresse mail suivante, donc saperlipopetum@gmail.com. Donc saperlipopetum, vous écrivez saperlipopette, vous enlevez le E et vous mettez UM à la fin, et voilà.
C'est parce que j'aime bien quand tu le dis, je dis ton mail.
Oui, c'est une adresse, j'ai galéré en fait pour faire une adresse un peu, j'avais pas trop d'idées, et à chaque fois Gmail me refusait mes idées, et puis à un moment donné, mais je crois que sur mon bureau, j'ai tapé du poing en disant saperlipopette, et voilà, je voulais pas trop le dire, mais je le dis aujourd'hui, bon, tant pis. Ouais. Jusque là, je disais, toujours... ne me demandez pas pourquoi, mais là,
ouais. Comme ça, c'est dit.
Au moins, c'est dit, voilà, vous savez tout.
Merci ou Jérôme. Presque. Ou presque. Ouais. On apprendra avec toi.
Oui, merci voilà. Baptiste de nous ouvrir le droit à la parole.
Et merci de l'apprendre. Ouais.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.